Est-ce que je vous ai déjà dit que je vous aimais? Vous avez oublié, je pense, mais je l'ai dit il y a longtemps. Je le répète, je ne suis pas le seul. Vendredi soir, on avait la réunion avec les anciens. Et notre prière, c'était que le Seigneur puisse augmenter notre amour pour vous, pour que nous puissions aussi vous encourager à vous aimer les uns les autres et à prendre soin les uns des autres. Et je crois que ce que Nasser nous a dit en introduction va dans ce sens-là. Et on a bien conscience qu'en tant qu'anciens, nos moyens sont limités et qu'on ne peut pas prendre soin de vous aussi bien qu'on le souhaiterait. Et c'est pour ça aussi que notre réflexion, c'est pas seulement de voir qu'est-ce que nous cinq pouvons faire, mais aussi comment nous encourager tous dans l'Église à pouvoir prendre soin les uns des autres. Et c'est là où nous pourrons être comblés dans nos besoins. Comblés dans nos besoins, mais aussi comblés surtout par celui qui nous aime par-dessus tout et qui prend soin de nous. Et c'est le but de cette série dans l'Évangile de Jean, où nous étudions les signes. Il y en a sept dans cet Évangile qui ont toutes une fonction particulière, qui sont relatés par l'évangéliste pour nous faire découvrir une facette de Jésus-Christ. Alors, on a déjà découvert deux de ces facettes il y a 15 jours lors de notre week-end d'église avec Franz Galland. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse. La semaine dernière, j'ai profité de l'absence de plusieurs parmi nous pour montrer quelques photos compromettantes. Voilà, ceux qui n'étaient pas là, malheureusement, ne peuvent pas savoir ce qui a été montré sur eux, mais... J'aimerais quand même préciser que c'était un week-end très sérieux, que nous avons été encouragés par la parole et que l'un dans l'autre, la joie, la bonne humeur et la parole nous donnent une envie folle de revenir l'année prochaine. Et donc pour ceux qui avaient des dates déjà prévues ou ne savaient coller pas, prévoyez bien à l'avance pour venir l'année prochaine. Voilà, Daniel, si tu veux qu'on parle après... On pourra parler, il n'y a pas de souci. Ok, c'était une petite blague privée. Alors, dans ce passage de Jean 5, ce que je vous propose, c'est de lire le passage ensemble. On est donc dans Jean 5, versets 1 à 17. On va simplement parcourir ces 17 versets et puis ensuite étudier. Jean 5, 1 à 17. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a cinq portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard, et je suis perdu dans ma lecture, il prit son brancard et se mit à marcher. Merci. Ouais, il manquait deux mots. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit ?» Prends ton brancard et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Nous sommes donc dans ce passage qui relate le troisième des sept miracles que l'on peut voir dans l'évangile de Jean. Et dans les précédents, on a vu que Jésus était capable de changer l'eau en vin. Et l'application, c'était de réaliser à quel point Jésus n'est pas là pour rendre notre vie triste, pour gâcher la fête, mais au contraire, il est là pour rendre la fête encore plus belle et pour nous permettre de participer à la fête à laquelle il veut nous faire découvrir en étant présent dans nos vies. Lorsqu'on a étudié la question de la guérison du fils d'un officier royal, qui est à la fin du chapitre 4, on a découvert que Jésus était capable non seulement de guérir un enfant malade, mais également de le guérir à distance, Bluetooth, infrarouge, Wi-Fi, ce que vous voulez. En tout cas, sa parole ne peut dépasser et traverser les murs. Il n'a pas de problème avec l'espace et avec le temps. Et le défi et l'application pour nos vies étaient de croire et de croire que Jésus est capable de faire au-delà même de ce que nos capacités humaines sont possibles de faire. Aujourd'hui, avec l'exemple, le miracle que nous avons là, il s'agit de la guérison d'un infirme à Bethesda. Alors, ce que je vous propose tout d'abord, c'est de bien comprendre le contexte. Le contexte est indiqué déjà dans les deux premiers mots, puisqu'il est marqué « Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem ». On est donc juste après l'événement précédent, qui est la guérison du fils d'un officier royal de Capernaum. Jésus donc poursuit son action miraculeuse et pose des repères auprès des personnes qu'il côtoie pour qu'ils puissent y référer et comprendre qui il est vraiment. On est au moment d'une fête juive. Chaque fois que Jésus intervient dans l'évangile de Jean, l'évangéliste met en parallèle une fête spécifique. Mais en général, il mentionne que c'est la Pâque, que c'est une autre fête, etc., parce qu'il y a un parallèle entre le miracle accompli et la fête elle-même. Ici, il s'agit d'une fête juive sans précision, ce qui laisse penser que le rapport entre ce que Jésus fait et puis la fête elle-même n'est pas vraiment important, si ce n'est que cela nous apprend et nous permet de comprendre pourquoi Jésus se rend à Jérusalem. Et certainement qu'il n'était pas le seul. Et là, j'imagine Jérusalem comme une ville remplie de pèlerins qui sont venus de toutes les régions alentour pour participer à cette fête, pour se rendre au temple et pour adorer et louer Dieu et se réjouir ensemble. Et Jésus, juif parmi les juifs, eh bien, suit cet itinéraire. Et puis, dernière précision qu'on voit un peu plus loin, c'est que c'est un jour de sabbat. Donc, on peut penser que c'est un samedi et que c'est un jour où encore plus propice à la fête, puisque tout le monde s'arrête de travailler. Or, Jésus a une attitude un peu particulière. Au lieu de se rendre au temple en arrivant à Jérusalem, comme ferait tout pèlerin, Jésus se rend dans un lieu un peu particulier où il y a une concentration de malades. Il va dans un lieu qui, en fait, en toute logique, devrait plutôt être évité. En fait, il va vers un lieu où se trouvent tous les exclus de la fête. Les malades, de par leurs conditions, n'ont pas le droit de rentrer dans le temple, dans le parvis du temple. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans ce lieu qui est un lieu sacré, un lieu saint. Et leurs conditions physiques les privent de cette entrée. Et que fait Jésus ? Lui qui est bien portant, lui, il fait l'effort d'un détour pour aller auprès de ces personnes qui sont mal portantes. Vous voyez, il y a une citation intéressante de Oscar Wilde, écrivain là, du fin 19e, début 20e, qui dit « Ceux qui essayent de mener le peuple ne peuvent le faire qu'en suivant la foule ». Je comprends cette citation dans l'idée que pour faire plaisir et être sûr d'être apprécié par le peuple, eh bien, il faut dire des choses qui plaisent à la foule. Jésus, ici, il voit la foule qui se dirige vers le temple, et au lieu de suivre le mouvement, Il va là où son cœur le porte, c'est-à-dire vers ces malades qui ont besoin de lui. Jésus regarde ailleurs que la foule qui est là pour la fête, mais Jésus veut que la fête soit aussi pour un homme en particulier qui en est exclu ce jour-là. Et là, il faut que je vous parle d'une anecdote qui va faire sourire certains, puisqu'il s'agit en fait d'un joueur de foot du RC Lens. C'est un club qui est en deuxième division et qui, voilà, ça ne s'en tire pas trop mal, je crois qu'ils sont quatrième en ce moment. Et il se trouve que dans ce club du RC Lens, il y a un milieu de terrain qui s'appelle John Bostock. Et John Bostock, il a un début de saison assez exceptionnel parce qu'il marque but sur but, c'est assez extraordinaire. Et puis, un ami était présent à ce match. Un match et penalty. John Bostock peut donc prendre le ballon, le poser sur le point de penalty et puis marquer son but. Et vous connaissez les joueurs de foot, ils aiment bien parler à la troisième personne du singulier, ils aiment bien marquer le plus de buts possible parce que ça leur fait des stats bien costauds. Marquer un but, ça veut dire aussi une prime de but à la fin du match, et puis surtout, ça veut dire une carrière qui, derrière, il peut espérer aller dans un meilleur club, etc. Ce gars-là prend le ballon, il regarde un de ses coéquipiers et il lui donne le ballon pour qu'il tire à sa place. Le spectateur qui était dans les tribunes, qui voit ça, il se dit là, il y a un problème, ce gars, il n'est pas net. Du coup, rentré chez lui, avec sa femme, il se met dans le mode chasse aux informations. Lui, il cherche toutes les informations possibles sur ce gars, sa femme, toutes les informations possibles sur sa femme. Il découvre qu'ils ont un enfant en bas âge comme eux, donc atome crochu possible. Et puis, comme c'est quelqu'un de très culotté, qui n'a pas froid aux yeux, et ben il écrit à ce gars, à ce joueur de foot, il lui écrit sur Twitter en lui disant « Je veux te rencontrer, je veux qu'on parle et tout. » Et John Bostock lui répond et ils se sont rencontrés. Et du coup, la question qu'il fallait poser, c'est mais pourquoi est-ce que tu as donné ce ballon à ton coéquipier? Pourquoi tu n'as pas tiré? Et le joueur de foot de répondre, moi je suis chrétien, et en fait au moment où il y a eu ce penalty, j'ai eu ce verset qui m'est revenu à l'esprit. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et je me suis dit, voilà, c'est bon, là, le match est bien calé, je peux prendre la responsabilité de faire profiter aussi d'un moment de plaisir à quelqu'un d'autre. Ce joueur est chrétien et il met sa foi en pratique. Et alors que sur un terrain de foot, on voit des joueurs qui courent après la gloire, après l'honneur, après la réussite, eh bien, ce joueur-là, lui, il a le regard ailleurs. Il a le regard vers ses coéquipiers auprès de qui il témoigne de sa foi. Et puis dans le public, il y avait aussi quelqu'un qui avait le regard ailleurs, qui ne voyait pas juste le match, le but, le penalty, mais qui voyait aussi, qui a vu un détail que personne d'autre n'a vu. Et c'est ce que Jésus fait lorsqu'il arrive à Jérusalem. Tout le monde voit le temple, tout le monde voit le lieu où il faut aller. Et lui, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde des personnes qui vont mal et qui ont besoin de son aide. Et quel défi pour nous! Quel défi pour nous de penser que quel est notre objectif? Aller toujours plus haut, aller avoir toujours plus de réussite, d'argent, de confort, etc. Ou est-ce que notre but, c'est de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes? Que fait Jésus face à ce... Que fait ce malade à Siloé? Alors, Siloé, c'est un lieu un peu particulier. Le passage nous dit que c'est une piscine. Alors, ce n'est pas une piscine de natation, même si les Jeux Olympiques existaient déjà à l'époque. C'est simplement en fait un réservoir qui accueille de l'eau qui arrive dans Jérusalem. Et puis, de temps en temps, il y a de l'eau qui arrive plus ou moins fort, donc l'eau se met à bouger. Et les malades se rassemblent autour de ces bassins. Parce qu'il y a une croyance que le premier qui se jette dans l'eau, il peut être guéri. Et donc là, on voit, le texte nous dit qu'elle est paralysée, des aveugles, des infirmes qui sont présents autour de ce... Alors, la question qui vient assez rapidement, c'est est-ce que vraiment cette eau peut guérir ces malades? Est-ce que vraiment il y a un ange qui descend et qui guérit ces personnes? Est-ce que c'est une farce ou est-ce que c'est une tragédie? Est-ce que, en fait, il ne s'agit pas d'une croyance populaire, d'une superstition qui donne de l'espoir aux gens, mais qui en fait n'est pas vraiment efficace? C'est d'autant plus fort que lorsqu'on regarde un peu le sens des mots, Siloé, ça veut dire l'envoyé, l'émissaire. Et Bethesda, c'est la maison de miséricorde. Donc les noms sont propices à un lieu où, en effet, un envoyé peut apporter la miséricorde de Dieu. Le souci, c'est que lorsqu'on regarde cet homme, ça fait quand même 38 ans qu'il est là, et apparemment il n'est pas le seul, il y a beaucoup de malades. Lui-même, il a déjà vu l'eau bouger depuis à plusieurs reprises, donc l'efficacité de ce lieu de guérison est extrêmement faible. Donc je crois qu'on peut vraiment prendre ce passage comme une mise en garde face à la superstition. Alors bien sûr, dans notre pays, on pense tout de suite à un exemple flagrant lorsqu'on lit ce texte. On pense à Lourdes. On pense à la fontaine d'eau bénite dont on peut acheter quelques gouttes parce qu'il y aurait une vertu purificatrice, etc. Mais je pense que c'est pas quelque chose dont on peut rire ou se moquer. On est fait comme ça, on est des êtres humains qui avons tendance facilement à croire dans des choses superstitieuses. Et ce passage nous met en garde par rapport à cela. Et il nous met d'autant plus en garde que les personnes qui sont là autour de cette piscine, elles sont certes superstitieuses, elles ont certes une croyance mal placée, mais leur croyance est sincère. Et il y a même des personnes, qui amènent chaque jour ces malades près de l'eau pour qu'ils puissent se jeter dans l'eau. L'infirme dont il est question ici, il n'est pas arrivé tout seul au bord de l'eau. Donc certainement que tous les jours, quelqu'un ou deux personnes ou plus le descendaient au bord de l'eau pour qu'il puisse être guéri. En fait, ce passage nous donne un défi sur notre réaction, la réaction que l'on peut avoir lorsque notre sincérité est mise en question. Lorsque la foi que nous portons dans quelque chose ou la confiance que nous avons en quelqu'un est tout d'un coup remise en question et on se rend compte en fait que on s'était trompé. Pour être clair, je vous donne un exemple. On a dans le livre des Actes, on a un passage qui nous parle d'un certain Apollos. Apollos, il a une particularité, c'est que c'était quelqu'un d'instruit quant à la voix du Seigneur, il était plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Ce gars-là, il était à fond pour le Seigneur. Ce gars-là, il avait un enseignement qui était clair, qui était limpide, qui était percutant, et les gens l'écoutaient avec plaisir. Et pourtant, il n'avait pas connaissance de la notion du baptême par immersion de ce que cela signifiait en lien avec l'engagement avec Jésus-Christ. Et alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a eu la chance de croiser un couple qu'il a pris en charge et qui a terminé son éducation théologique. Et ici, on lit qu'après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Et vous savez quelle a été la fonction d'Apollos par la suite? Son ministère a décollé. Apollos, décollé. Bon. Son ministère a décollé. Il est devenu le pasteur de Corinthe. Et il a participé à l'affermissement de cette église. C'est extraordinaire comment cet homme a accepté, alors qu'il était sincère, qu'il enseignait des choses de tout son cœur, mais lorsqu'il a réalisé qu'il n'avait pas toute la vérité, et personne de là, mais qu'il avait des choses à corriger, il a accepté d'être corrigé et de modifier son message. Alors oui, est-ce que Est-ce que je cherche la guérison au bon endroit? Est-ce que je cherche la guérison avec de bons moyens? Eh bien, si ce n'est pas le cas, je dois être prêt à être remis en question, à me remettre en question et accepter de chercher la guérison là où Jésus veut que je la cherche. Alors Jésus, parlons-en. Puisque Jésus est bien l'acteur principal de ce passage, c'est le nom qui revient le plus de fois, 8 fois au total. Et Jésus, il a une particularité, c'est que son action est bien décrite. Jésus, il fait 3 choses. Jésus, il voit ce malade couché. Il sait qu'il est malade depuis longtemps. Et puis ensuite, il lui parle. Il lui dit, veux-tu être guéri? Et c'est énorme ce que Jésus peut faire pour toi. Jésus te voit, Jésus sait quelle est ta condition, et Jésus te parle et te pose la question, veux-tu être guéri? Et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Pourquoi est-ce qu'il s'approche de cet homme et lui pose la question, veux-tu être guéri? Et là, ça vaut la peine de s'arrêter sur cette question, veux-tu être guéri? C'est une question qui paraît complètement évidente. En gros, c'est comme si quel exemple on peut donner? C'est je trouve un exemple. Ok, c'est tellement évident en fait que c'est comme si tu arrives après avoir marché pendant une journée, qu'il y a une chaise devant toi et on te dit, est-ce que tu veux t'asseoir? Ok. Bon, je pourrais multiplier les exemples comme ça, mais vous avez compris l'idée. C'est une question évidente qui est renforcée par tout ce que l'on sait sur l'infirme. Alors, on ne sait pas beaucoup de choses, mais on sait des choses. Déjà, on sait qu'il est infirme, même s'il n'y a aucune précision sur la nature de son infirmité. On sait juste qu'il est couché. On peut supposer qu'il était paralysé parce qu'il n'arrive pas à aller assez vite dans la piscine. Mais en même temps, surtout, ce qu'on se dit, c'est que, d'une part, il n'a pas de fauteuil roulant, et d'autre part, il n'a pas d'amis. Parce que personne n'est là pour le porter et pour l'amener dans l'eau non plus. Donc c'est quelqu'un qui est infirme, c'est quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui cherche la guérison coûte que coûte, qui la cherche depuis longtemps, 38 ans. On ne sait pas son nom. Alors on sait qu'il a au minimum 38 ans, il n'y a pas d'âge maximum. Et finalement, il est défini par 3 choses. Son sexe, sa santé et sa solitude. En fait, la question de Jésus-Christ, c'est une question qui n'est pas si évidente que ça. C'est une question révélatrice. Parce que tout le monde voit, tout le monde sait, le gars, ça fait 38 ans qu'il est malade. Tout le monde voit que sa santé ne va pas bien. Tout le monde voit qu'il est seul. Tout le monde voit qu'il est que c'est un homme. Pas de souci par rapport à ça. Mais ce que Jésus veut mettre en évidence, c'est autre chose. L'homme répond à Jésus, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Cette réponse de l'homme montre qu'il ne doute pas de la possibilité de la guérison. Mais ce qu'il montre, ce qu'il dit, c'est que les conditions matérielles ne sont pas réunies pour atteindre la guérison. Comme s'il y avait un fossé entre lui couché sur son brancard et la piscine à quelques mètres où la guérison est possible. Il y a une distance qui est infranchissable. La guérison est trop loin pour lui et il ne peut l'atteindre. Et alors la question de Jésus, là, elle prend un autre sens, elle prend une autre dimension. Sa question, c'est pas juste « veux-tu être guéri, oui ou non ?» Sa question, c'est « veux-tu être guéri et comment penses-tu t'y prendre ?» Et sur cette base-là, quand Jésus a entendu le gars qui dit « non, mais en fait, je ne peux pas y arriver », eh bien, Jésus lui dit quoi ? « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et là, quelle dimension quand on l'applique à nous-mêmes. J'ai mes circonstances de vie, j'ai ma situation personnelle, j'ai mes problèmes personnels. Mais Jésus, viens vers moi. Jésus connaît ma condition. Et Jésus me dit, veux-tu être guéri? Et quel est ce moyen que Jésus veut proposer pour que je sois guéri? Eh bien, c'est tout simplement sa parole. Lève-toi. Ces deux mots qui sont puissants et qui résonnent d'une manière telle que l'homme se lève et marche. Moi, ça me fait penser à cette semaine, j'étais dans le psaume 107, et un magnifique psaume. Les versets 10, 13, 20, « Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Cet homme avait une maladie physique, mais derrière cette maladie physique, il avait aussi une maladie morale. 38 ans de souffrance et d'incapacité à bouger. Et comme nous, pouvons être ici, être prisonniers de la misère, enchaînés, angoissés, et nous avons besoin que Dieu envoie sa parole et nous guérisse. Eh bien, Jésus, ici, montre quelque chose d'énorme. Il montre un contraste extraordinaire, finalement, entre cet infirme qui ne peut pas obtenir la guérison et ce que lui peut proposer. Et ce contraste est tellement énorme que Jésus va bousculer cette ville de Jérusalem en plein milieu d'une fête. Et bousculer à tel point cette ville que lorsqu'il va retourner vers le temple, rencontrer l'aveugle, eh bien en même temps, autour de lui, il y a des... Autour de lui, il y a des autorités juives qui veulent absolument l'attraper parce qu'il a ordonné à un homme de marcher, de prendre son brancard un jour de sabbat. Alors pourquoi ça pose un tel problème? Tout simplement parce que pendant le sabbat, il était interdit de travailler, c'est-à-dire occupation habituelle. Sauf qu'il y avait quelques petites adjonctions, des annexes à cette loi, et en fait, à cette époque-là, les autorités juives avaient déterminé 39 occupations habituelles, comme par exemple porter quelque chose. Et donc, cet infirme guéri, en portant son brancard, et ben, il se retrouvait en train de faire une occupation habituelle, un jour de sabbat. Alors, son seul moyen pour éviter d'être en situation délicate, eh bien, c'était de dénoncer la personne qui lui a dit prends ton sabbat, prends ton brancard et marche. Et Jésus se retrouve face aux autorités, on arrive à la fin de ce passage. Et qu'est-ce qu'il dit à ces autorités? Eh bien, il leur dit ceci, mon Père est à l'œuvre. Jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. En vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et voilà le but de ce troisième miracle dans cet évangile de Jean au chapitre 5. En guérissant ce malade, et ce malade spécifiquement, un jour de sabbat, pendant une fête juive, eh bien Jésus veut affirmer qu'il n'est pas là pour rigoler, il est là pour provoquer et prouver que ce qu'il fait, eh bien c'est ce que le Père fait. Et si le Père fait cela, c'est qu'il fait les choses similaires au Père. Il est donc de la même nature que le Père. Jésus-Christ est donc bien le Fils de Dieu, le Messie. Et regardez comment les gens ont pu comprendre ça à l'époque. On voit là l'accomplissement de cet formidable chapitre. C'est dans mes 10 chapitres les plus importants de la Bible, il y a Ésaïe 35. Verset 8. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et grâce à Jésus-Christ, cet infirme se retrouve sur l'autoroute de la sainteté et peut aller de l'avant sur cette autoroute que j'appelle la E35-8 qui permet de se diriger vers le ciel et de participer à la fête. Et vous savez où est-ce que Jésus retrouve cet infirme ? Dans le temple. Alors que, en tant qu'infirme, il n'avait pas de place dans le temple, eh bien c'est là où Jésus le retrouve. Vous savez, la suite du passage nous dit que Jésus souhaite que tous, nous nous retrouvions aussi dans l'au-delà, dans le temple, avec lui, avec tous les anges qui chantent et avec toutes les personnes qui veulent se réjouir que Jésus-Christ les a guéris. Alors rendez-vous là-haut.